découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Fabrice et bonjour à tous.
Ah oui, là je vous ai surpris en train de boire votre thé là, c'est pas possible.
Absolument, mais tous les matins je bois mon thé.
Juste avant de rentrer en scène. Hop.
Clair.
Et donc, bah, en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver chaque lundi, c'est sur Nutri Radio. Merci à vous, cher Jean-Paul, de travailler comme ça d'arrache-pied pour le plus grand bien de tous, en nous alertant hein, parfois sur des situations. Et il faut bien comprendre, parfois, bah, ouais, c'est important de bien comprendre pour pouvoir agir le mieux possible. Et vous m'avez manqué, vous savez, depuis qu'Ombeline est arrivée entre nous, Jean-Paul, qu'on embrasse d'ailleurs.
Voilà.
Incroyable cette Ombeline, on embrasse Ombeline Lebrun que vous suivez aussi dans certaines émissions, chers auditeurs. Merci de nous suivre aussi sur nutritv.fr, www.nutritv.fr, ça nous aide pour dire de tout à fait les choses franchement. Et en plus, c'est des contenus qui sont très différenciants et de ce que vous écoutez sur Nutri Radio, très complémentaires avec des masterclass, des documentaires, des reportages. On travaille vraiment d'arrache-pied pour vous proposer de plus en plus de contenus et vous allez voir que voilà, la promesse sera tenue et d'ores et déjà, il y a un grand catalogue de vidéos que vous pouvez visionner quand vous voulez en vous abonnant à NutriTV. Et même si vous créez un compte, hein, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais en créant un compte, vous avez accès à des contenus gratuits. Jean-Paul, on va continuer.
Alors donc on va continuer avec l'eau, hein, qui est un sujet vital.
Alors justement,
l'air, on a vu l'air, on voit l'eau, on verra bien sûr les aliments, les objets, etc., etc. Et puis différents polluants, et puis surtout on développera, comme on a commencé à le faire, hein, les moyens de se protéger, de réduire les charges et de les neutraliser, de les éliminer. Alors justement, pour éliminer, tout le monde se doute qu'on élimine les polluants par un certain nombre de voies. Bon, une des voies majeures, c'est la voie urinaire évidemment, mais il y a aussi la sueur, il y a la laine, on élimine comme on peut. Tout ce qui nous agresse au jour le jour. Voilà. Et donc, on se doute qu'il y a des déchets naturels, entre guillemets. C'est, par exemple, quand on a des protéines qui arrivent en fin de vie, on les détruit, hein, ce qui arrive tout le temps, en permanence. Et le produit de dégradation de ces protéines s'appelle l'urée. Hein. Par contre, dans les noyaux, on a de l'ADN, hein, c'est notre informatique, qui va donner de l'acide urique. Je pense que tout le monde a entendu parler de ça dans ses analyses de base quand il va chez son médecin. Et donc tout ça, ça passe dans les urines. Le rein, quand il en voit trop, il le passe dans les urines. Et donc boire suffisamment permet d'augmenter évidemment le volume d'urine, hein, ce que les médecins appellent la diurèse, et améliore l'élimination de toutes ces molécules indésirables, y compris donc les polluants qui ne sont pas naturels, évidemment. Alors, donc, on a dit la sueur, la laine, dépend aussi de l'hydratation, mais même les sels, hein, puisque on a parlé la dernière fois avec Ombeline de la constipation. Hein, si on ne boit pas assez, eh bien, ça fait une salle irritante qui descend mal dans les toilettes. Ça irrite les parois digestives et ça peut même aller jusqu'au cancer si c'est chronique. Donc, la fonction rénale doit concentrer les urines en cas de manque d'eau, et elle est soulagée quand on boit bien. Et de ce fait, les volumes de liquide recommandés contribuent à prévenir les problèmes rénaux. Par ailleurs, une meilleure dissolution des polluants dans l'urine réduit leur impact et sur le rein et sur la vessie. Une diurèse plus importante évacue aussi mieux les minéraux susceptibles de former des calculs, ainsi que les germes. Tout le monde connaît les cystites avec le fameux Escherichia coli qui souvent vient du tube digestif, justement. Constipation, ça crée une inflammation, le microbe migre du tube digestif jusqu'à la vessie, et on connaît la suite. Donc, on a les études, hein, qui montrent que les personnes qui boivent régulièrement bien font moins de cystites, moins de calculs rénaux, moins de cancers de la vessie même. Une étude de l'Université de Harvard sur plus de 48 000 hommes met en avant que pour chaque verre d'eau bu, chaque jour, le risque de cancer de la vessie baisse de 7%. C'est impressionnant, juste de l'eau. De même, en cas d'excès d'alcool, boire plus de liquide non alcoolisé permet de le dissoudre, de le cataboliser, tout le monde connaît ça, l'éliminer plus vite. Alors Fabrice, boire, mais boire quelle eau ?
Mais c'est ce que j'allais vous poser, mon cher Jean-Paul, parce qu'il faut boire de l'eau pour la diurèse, mais en même temps, si l'eau est contaminée, bon.
Alors théoriquement, on est censé avoir de la bonne eau au robinet. Est-elle vraiment potable ? Alors, je peux déjà répondre d'avance, hein, et puis on va voir le détail. C'est qu'elle est tout à fait potable sur le plan bactérien. On n'attrape pas des touristas comme dans certains pays. En France, hein, l'eau est bien contrôlée sur le plan des microbes. Mais sur le plan chimique, c'est une autre affaire. C'est ça le problème. On a des tas de paramètres, hein, je ne vais pas tous les décrire, c'est fastidieux. Mais voilà, il y a des listes de normes, si vous voulez, pour les nitrates, pour les hydrocarbures, pour les sulfates, et puis pour des super toxiques comme l'arsenic, le cadmium, donc tout ça déjà dans les cartons de la réglementation. Mais malheureusement, il y a tellement de nouveaux polluants. Tout le monde a entendu parler des PFAS. On découvre qu'il y a même des résidus de médicaments dans l'eau du robinet. Bon. Donc tout ça n'est pas encore enregistré dans la réglementation et donc ça crée d'autres problèmes. De plus en plus de communes délivrent des eaux non potables où les polluants dépassent ces normes insuffisantes. Elles délivrent tout de même de l'eau à 17 millions de Français sous couvert de dérogation. J'avais mis 11 millions dans ma version précédente, mais j'ai découvert sur le site même du gouvernement que en fait au moins une fois dans l'année, il y a 17 millions de Français qui n'ont pas d'eau dans les normes.
Ouais.
Ça fait beaucoup. Oui. Puis on a fermé, on l'avait dit tout en début de chronique, vous vous rappelez Fabrice, qu'on a presque fermé la moitié des captages d'eau en France à cause de cette pollution, et alors qu'elle ne tient pas compte des nouveaux polluants. Bon. Donc c'est vraiment, vraiment préoccupant, c'est pour ça qu'on prend autant de temps sur l'eau. Hein. Alors déjà, la première discussion, c'est l'eau dure, l'eau douce. L'eau du robinet, elle est en fonction des régions plus ou moins riches en calcium, en magnésium. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'eau dure ou d'eau douce. En France, les eaux du Massif central, des Vosges, du Massif armoricain sont douces, moins de 200 mg de calcaire par litre. Dans le bassin parisien, beaucoup plus riche en calcaire, hein, puisqu'on a jusqu'à 900 mg de calcaire par litre. Et en fait, c'est pas bon pour les tuyaux, évidemment. La machine à laver la vaisselle, la machine à laver le linge, etc. Ils n'aiment pas l'entartrage. Mais par contre, sur la santé, c'est bon. Pourquoi ? Parce que plus il y a de magnésium et de calcium dans l'eau, c'est plus l'eau est dure, plus, par exemple, les risques cardiovasculaires diminuent, l'hypertension et même jusqu'à la mort subite. Donc, si on installe un adoucisseur d'eau, ce qui est normal, on veut garantir la durée de vie de ces appareils, il faut l'exclure, le robinet de l'évier. Hein, c'est mieux. À noter que l'osmose inverse, qui a été boostée par un marketing agressif, c'est efficace, c'est vrai. Ça a bien l'avantage de réduire le chlore, l'excès de sel. Mais malheureusement, ça enlève aussi des minéraux intéressants, ce magnésium et ce calcium, qu'on préférerait garder. Par ailleurs, ça implique un gaspillage d'une très grande quantité d'eau. Il n'y a que 10% de rendement, c'est-à-dire qu'il faut pratiquement rejeter 10 litres d'eau pour un litre d'eau osmosée produite. Et voilà. Donc, c'est vraiment pas très écologique. En plus, c'est très cher. Bon. Donc, les filtres, eux, charbon actif, céramique, etc., on s'en développe de plus en plus. D'autres qui sont efficaces sur les PFAS réduisent la présence en polluants, mais n'enrichissent pas non plus l'eau en minéraux. Donc, tous ces systèmes, y compris l'osmose inverse, se révèlent souvent augmenter des risques de contamination en pathogènes, car les filtres et cartouches sont vite saturés. Ça, c'est une erreur, c'est-à-dire que si même on a la bonne idée de prendre des filtres charbon actif céramique, moi j'ai un filtre à gravitation, bon, on met quelques litres d'eau avec un robinet douche, vous avez à l'évier, on remplit le premier étage en inox, il y a les deux cartouches en haut et ça descend. Le lendemain matin, on a ces litres d'eau purifiée. Mais bon, donc il y a trop de toxiques dans l'eau du robinet. Les normes en plus sont obsolètes. Le gouvernement essaie de suivre en intégrant des nouveaux. Là, on vient de découvrir qu'il y a le PFAS pratiquement le plus abondant dans l'eau du robinet, c'est un catabolite qu'on ne mesurait pas avant. Donc on est dans une situation qui est malheureusement en état d'aggravation importante. Donc on va reprendre un par un ces polluants les plus importants, Fabrice.
Ok, on va reprendre un par un ces polluants les plus importants. Auparavant, on va marquer une toute petite pause, mais aussi je voudrais que... Parce que vous avez donné quand même beaucoup d'informations très intéressantes, et pour pas que ce soit bien clair pour tout le monde, vous avez dit, si je récapitule, que... Cette eau, l'eau dure, enfin le fait qu'elle favorise l'entartrage des tuyaux et appareils ménagers, ça, c'est pas bon pour les tuyaux, mais par contre, c'est positif sur la santé ?
Absolument. C'est documenté sur des centaines et des centaines de points d'eau. Plus les gens ont de magnésium et de calcium, de l'eau dure au robinet, moins ils ont de risque cardiovasculaire en général. Ça va de l'hypertension à la mort subite.
D'accord, donc il faut favoriser les eaux dures. Et si on installe un adoucisseur d'eau, donc c'est pas une bonne idée si on la consomme.
Alors, c'est mieux. Bon, évidemment, il y a d'autres sources de magnésium et de calcium. Le magnésium, de toute façon, malheureusement, on est obligé d'en prendre en complément, sinon c'est pas possible de l'avoir ni par l'eau ni par les aliments en quantité suffisante. Bon, pour le calcium, c'est pas très bon de prendre des compléments, mais bon, il y a d'autres sources, heureusement, que l'eau.
Bon, en tout
donc,
cas,
c'est pas une obligation d'avoir de l'eau dure au robinet. De toute façon, déjà, on peut pas choisir si son eau est dure ou pas au départ. Et puis donc, on fait avec. Mais si on peut, demandez au technicien qui vous installe l'adoucisseur de mettre hors circuit le robinet de l'évier, c'est mieux.
Très bien. Bon, bah ça, c'est dit, c'est redit. On marque une toute petite pause. Et donc, on va reprendre ces toxiques un par un dans la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous.
Nutri-Therapy & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Allô, Jean-Paul, vous êtes là ?
Allô, je suis toujours là.
Bon, on parle de l'eau, justement. Vous avez donné des vraiment premières parties, des informations très intéressantes. Et je vous suggère, si vous venez d'arriver, chers auditeurs, on va pas tout reprendre maintenant, mais le podcast sera dispo juste après la diffusion de l'émission sur le live, donc vous pourrez réécouter ça à loisir, le partager aussi. N'hésitez pas vraiment à partager ces infos, à nous suivre sur Insta aussi Nutri Radio, à vous abonner sur Spotify par exemple ou Apple Podcast. L'application, tiens, on a eu des petits soucis, mais on était en train de la mettre à jour, donc sur Apple notamment, n'hésitez pas à mettre à jour l'application si vous constatez qu'elle ne fonctionne pas bien, il faut juste la mettre à jour. Donc on a dit que maintenant, vous allez reprendre pour nous notre information, les toxiques un par un que contient notre eau.
Oui, alors bon, tout le monde est au courant qu'il y a du chlore, c'est nécessaire de désinfecter l'eau, c'est évident. Bon. Mais le chlore, malheureusement, c'était aussi un gaz de combat, hein. 14-18, il est en effet beaucoup très efficace sur des pathogènes, des bactéries, des parasites, sont résistants par contre certains, mais enfin bon, on n'a pas tellement de problèmes de Giardia, c'est un parasite qui est plus dans d'autres pays. Les maîtres nageurs, dans les piscines évidemment, ils ont de l'eau chlorée toute la journée à côté d'eux, ils ont obtenu que les maladies liées aux piscines chlorées, hein, ça s'appelle syndrome de Brooks, asthme, insuffisance respiratoire, chlorose, sont reconnus comme des maladies professionnelles. On ne peut pas mettre deux plantes, par exemple, dans une piscine chlorée parce qu'elle meurt. Bon. Les chloramines dérivées du chlore sont des substances chimiques volatiles, irritantes pour la peau, les yeux, les voies respiratoires. C'est ainsi que la fréquentation des piscines, les maîtres nageurs, donc les enfants, les bébés nageurs, c'est super comme idée, mais bon, il faudrait une eau moins chlorée pour les bébés. Était associé à un risque plus élevé d'eczéma, de troubles oculaires, d'asthme, un risque d'aggravation des symptômes chez les personnes asthmatiques. Bon, ces fameux bébés nageurs, ils ont été étudiés par un professeur Bernard, à l'université de Louvain. Il a étudié une population de 341 enfants âgés de 8 à 12 ans, parmi lesquels 41 ex-bébés nageurs. 16,3% des anciens bébés nageurs avaient un asthme diagnostiqué, contre 7,7% des autres enfants. 9,3% présentaient un asthme à l'effort, contre 3,7% chez les autres enfants. Enfin, 6,7% des ex-bébés nageurs avaient plus souvent des bronchites, contre 3,7% des autres enfants. C'est un peu dommage, parce que bébé nageur, c'est une super idée. C'est génial de remettre les bébés dans l'eau alors qu'ils sortent d'une piscine dans le ventre de leur mère, hein, le liquide amniotique. Mais bon, il faudrait avoir de l'eau moins agressive. Une étude espagnole n'est pas plus rassurante pour les adultes. Les chercheurs du Centre de recherche en épidémiologie environnementale, le CREAL, et de l'Institut de recherche de l'Hôpital Del Mar ont établi un lien entre l'exposition aux produits chimiques dérivés de la désinfection des piscines et des mutations permanentes de l'ADN chez les baigneurs. Ça devient plus sérieux. En comparant les effets de piscines traitées au chlore et au brome, les scientifiques ont constaté des effets toxiques au niveau génétique chez 49 adultes sains ayant nagé 40 minutes dans la piscine couverte traitée au chlore. L'étude montre une augmentation du niveau de deux marqueurs de toxicité chez ces nageurs, dont l'un est considéré comme indicateur de risque de cancer chez les sujets sains. Le chlore libre, utilisé pour désinfecter l'eau, réagit avec la matière organique, donne des naissances à des dérivés qui restent présents dans l'eau. Une étude présentée dans un rapport de l'Institut de veille sanitaire décrit trois familles de ces sous-produits de chloration, les trihalométhanes, les acides haloacétiques et les acides haloacétonitriles, observés dans quatre réseaux d'eau français dans les années 2000. Concernant les derniers, les trihalométhanes, en fait, les concentrations doublent en moyenne entre l'usine et le robinet. En effet, le chlore s'évapore, lui, dans le réseau. Aussi, du chlore est réinjecté dans certains produits de canalisation. La réglementation française impose bien sûr une valeur limite sur ces dérivés, mais la majorité des contrôles sont effectués en sortie d'usine de traitement et non sur le réseau. Vous voyez qu'il y a des trucs un peu sioux qui se passent et qui font que la situation n'est pas aussi bonne qu'elle pourrait l'être. Plus de 10 études montrent une association entre la consommation d'eau du robinet chlorée et l'augmentation de risque de fausse couche chez les femmes enceintes, là autre chose. D'autres études mettent en évidence une augmentation des risques de cancer de la vessie, du côlon. Bon, une étude observe que des tissus mammaires des femmes ayant fait un cancer du sein contiennent de 50 à 60% plus de dérivés organochlorés que celles qui n'en ont pas fait. Donc voilà, soupçon de participation au problème du cancer du sein, hein, qui est d'actualité, octobre rose. La chloration peut être remplacée par d'autres systèmes. Alors l'ozone, le brome, le peroxyde d'hydrogène, des techniques chimiques, mais bon, leur innocuité pour la santé et l'environnement est loin d'être garantie. Donc les meilleurs systèmes sont des systèmes de purification biologique, par exemple par des adsorbants biodégradables, des sortes d'éponges qui jouent un filtre ou ce qu'on appelle la phytoépuration qui se développe mais de manière très très lente. Dans certaines communes font le pari de cette évolution avec courage. Et l'utilisation de plantes qui assure à la place du chlore et des autres produits chimiques l'élimination des matières organiques propices au développement bactérien. Elles sont de plus en plus utilisées pour des piscines naturelles qui comportent deux bassins, dont l'un entièrement rempli de végétaux qui filtre et épure et recycle l'eau qui circule grâce à une pompe, et pour des centres de retraitement de l'eau dans des communes dynamiques. Donc c'est possible. Bon, après, voilà, il faudrait qu'il y ait une politique claire là-dessus et volontariste. C'est évident, on en a besoin. Les autorités de santé publique, les associations de consommateurs, les citoyens devraient obtenir que la chloration est désuète, mauvais rapport bénéfice-risque, comme on dit en médecine, soit remplacée par des alternatives plus saines et écologiques.
Et c'est pas
voilà
tout.
Ce que je voulais dire.
Et c'est pas tout.
Non, malheureusement, c'est que le début, mais bon, on s'informe pour s'adapter et pour améliorer ces risques. De toute façon, bon. Les filtres au robinet ou par gravitation déjà éliminent une grande partie de et du chlore et des métabolites du chlore.
Alors ça, c'est pour le chlore. Il y a aussi l'aluminium.
Il y a aussi l'aluminium. Ben pourquoi de l'aluminium? Qu'est-ce qu'il fout là? On plein de l'aluminium dans les vaccins. C'est vrai que c'est pas la. On devrait faire. Ça devrait être interdit, c'est clair. Mais dans l'eau du robinet. Oui, parce que c'est un vieux truc qui date de l'Antiquité. Les Romains faisaient déjà ça et on en est toujours là. C'est-à-dire qu'ils avaient découvert, c'était smart à l'époque, mais bon, ils ne connaissaient pas les dangers de l'aluminium, le sulfate d'alumine qui est utilisé comme ce qu'on appelle un flocculant. C'est quoi le flocculant? C'est le premier traitement qu'on fait pour nettoyer l'eau. Ça les décante des grosses particules qui tombent au fond des stations d'épuration. Donc, les flocculants se fixent sur les particules en suspension, provoquent leur précipitation sous forme de boue au fond des bassins. Mais de l'aluminium reste en suspension dans l'eau. Et c'est comme ça qu'il nous arrive au robinet. Or, l'aluminium prend la place du calcium dans l'os. Bon, c'est pas génial, mais est pro-oxydant. Alors déjà, ça c'est déjà beaucoup plus embêtant parce que pro-oxydant, c'est ce qui accélère le vieillissement et les risques de maladies liées à l'âge. Neurotoxique. Dans l'article « Alzheimer, aluminium et aux troubles », un grand spécialiste des métaux que j'ai eu la chance de connaître, Henri Pesera, qui était en tête du combat contre l'amiante, dit Je cite Henri Pézra. Plusieurs études épidémiologiques dans 6 pays différents ont conclu une augmentation notable de l'incidence de la maladie d'Alzheimer en relation avec une concentration trop importante d'aluminium dans l'eau de boisson. Consultés, l'Institut de veille sanitaire et 2 agences de sécurité sanitaire ont publié des rapports et conclusions qui nient, en dépit des faits, le caractère plausible d'une telle relation, refusant par là même toute mesure de prévention lors du traitement des eaux. À la carence des experts répond la carence de la santé publique. Bon, c'est assez clair.
C'est incroyable, ça peut être.
Il avait l'habitude, hein. Je vous dis, c'est lui qui a aidé les syndicats d'ouvriers de se protéger contre l'amiante. C'est grâce à lui qu'on a commencé à désamianter.
Donc on peut se dire qu'on va dans un autre scandale sanitaire, peut-être sans précédent, avec cette histoire d'eau, là, parce que l'aluminium qui joue dans l'eau, qui joue un rôle sur la maladie d'Alzheimer. Bon voilà, enfin bref, tout le chlore, etc. Que dit la réglementation, justement ?
La réglementation, elle a fixé un seuil qu'il ne faut pas dépasser, un 0,2 mg par litre. Mais ce n'est pas un seuil dicté par des considérations de santé publique, c'est plus un indicateur d'efficacité du traitement subi par l'eau. Cette position reprend les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans les directives pour l'eau de boisson. Elle précise que l'utilité limitée des données provenant de modèles animaux et de l'incertitude entourant les données recueillies chez l'homme, il n'est pas possible actuellement d'établir une valeur guide fondée sur des critères de santé. Bon, la réalité, c'est qu'il ne faudrait pas utiliser le chlore du tout, mais bon. Or, plusieurs études concluent que le risque de développer la maladie d'Alzheimer augmente quand la concentration dépasse 0,1 mg par litre, c'est-à-dire 2 fois moins déjà que la norme technique proposée par les autorités. Bon. L'étude française PAKID, menée à Bordeaux par l'équipe du neurologue Jean-François Dartigues, a suivi pendant 8 ans plus de 3 700 personnes. Les auteurs concluent que les personnes dont l'eau de boisson contient plus de 0,1 mg d'aluminium par litre ont 2 fois plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer. C'est quand même pas rien. Cette étude montre aussi que lorsque la concentration en silicium est supérieure à 11,25 mg par litre, le risque est plus faible lorsque l'eau en est pauvre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le silicium bloque l'aluminium, d'accord ? Il fait des complexes qui se précipitent, on ne peut plus les absorber, les aluminosilicates. Si on les absorbe, malheureusement, et qu'ils passent dans le cerveau, ces aluminosilicates existent bien, mais ils se déposent dans le cerveau, et comme vous le notez, ce n'est pas bon. Donc plus il y a de silicium dans l'eau du robinet, plus le risque de maladie d'Alzheimer est réduit, et en moyenne, ils ont calculé de 27%. Donc cette relation entre aluminium et Alzheimer, l'effet protecteur par le silicium, a été confirmée par une autre étude, celle du gérontologue Bruno Velas à Toulouse. Bon, ceci dit, rien ne nous empêche aussi, pour nous protéger, de prendre du silicium, ça se trouve en complément, et donc voilà, on a des parades. Hein. Je tiens absolument à ce que vous ne restiez pas sur le côté purement négatif de toutes ces infos. Ça amène à des positionnements, à des mesures de protection.
Ah bah oui, bah là le silicium, il faudrait qu'on fasse une émission dessus parce que apparemment c'est aussi quelque chose de très 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 intéressant. Mais là en tout cas, ok, merci. Moi je suis estomaqué, j'ai la corde là qui est posée pas loin. Et après peut-être que ce sera la dernière émission que je ferai avec vous. Hein. Moi je suis démoré.
Pourquoi c'est...
Non, j'exagère, mais bon, quand on entend ça, franchement, vous même quand vous cherchez dans vos, enfin voilà, quand vous lisez tout ça, vous devez être aussi estomaqué, mon cher Jean-Paul.
C'est-à-dire que, bon, ça, c'est connu depuis longtemps. Mais par exemple, il y a quelques semaines, j'ai appris que j'avais un dérivé d'un pesticide pour les betteraves trop élevé dans mon eau du robinet, que voilà, que le distributeur de mon eau allait demander une dérogation. Sympa, quoi. Bon, donc c'est tout le temps qu'on a des problèmes comme ça. Et l'aluminium, c'est pas le pire.
Alors tiens, parlez-nous de cette enquête en France là, qui a permis d'établir un bilan de la situation des teneurs en aluminium sur les eaux destinées à la consommation humaine.
Oui. On a presque 16 millions de personnes dans cette enquête, desservies par 630 installations faisant appel à des sels d'aluminium. Selon cette enquête, pratiquement 4 millions de personnes, à peu près un quart, sont exposées à des teneurs en aluminium dans l'eau nettement supérieures à ce qui est souhaitable, c'est-à-dire aux 0,2 mg déjà proposés, qui sont déjà le double de ce qu'il faudrait accepter éventuellement. Bon, voilà. Donc, et dans certaines régions, ils ont au-delà de 0,5 mg. La ville de Paris, elle est, vous avez vu, elle prend plein de mesures anti-pollution. Bon, c'est le bazar au niveau des embouteillages, mais la pollution aérienne a fortement, fortement diminué à Paris là, ces dernières années, grâce à la politique de la mairie. C'est une bonne nouvelle. Ils ont renoncé pour le traitement de l'eau à l'aluminium, bravo, mais ils floculent au sel ferrique. Alors le fer, certes moins problématique, mais il s'avère aussi pro-oxydant et neurotoxique en excès. Donc il y a d'autres choix meilleurs à faire. Hein. Par exemple, la silice activée, on en parlait tout à l'heure, qui est non seulement non toxique, mais protectrice, on vient de le voir. Donc voilà, il y a un énorme progrès à faire au niveau des mesures générales de santé publique sur l'eau en France. Il faut rappeler aussi que l'aluminium, ben, il ne provient pas que de l'eau, hein. Il provient de certains aliments, de casseroles. Bon, les casseroles en alu, c'est léger pour les campeurs et les scouts, mais bon, chez soi, ce n'est pas vraiment la meilleure idée. Antiperspirant, vous savez que on se met des boules pour ne pas sentir la sueur sous les aisselles. Voilà, mais comme il y a de l'aluminium dedans, on a montré que cet aluminium, il migre dans le système lymphatique des femmes et va jusqu'au sein, est un facteur de cancer du sein. Les vaccins, hein, on l'a dit, il y a d'autres renforçateurs des vaccins que l'aluminium. Avant, on n'utilisait pas l'aluminium, on utilisait des phosphates de calcium. Alors, ce n'est pas un progrès, ça. Il y a même des vaccins, il y a du mercure. Bon. Les médicaments, en particulier les pansements gastriques. Hein, les pansements gastriques, tout le monde le connaît. Ben oui, mais même d'ailleurs, les naturopathes et en bio ont prescrit des argiles vertes. Mais l'argile, c'est des silicates d'aluminium. Donc, si vous voulez, il y a des mauvais choix qui sont faits par manque d'information. Et j'espère que voilà, cette information vous sera utile pour avoir une eau plus saine.
Alors, juste question, encore une fois, de néophyte, mais aluminium, le papier aluminium que l'on utilise à la maison pour recouvrir un plat ou emballer un sandwich, c'est bien.
Alors, s'il est froid, il n'y a pas de problème. Si par contre, on met l'aluminium au four, hein, pour quand on veut
Les
protéger,
papillotes et tout,
voilà,
machin.
c'est ça. Là, c'est pas bon parce que avec la chaleur, il y a de l'aluminium qui fond. Et donc, non, il vaut mieux mettre du papier sulfurisé, par exemple.
Eh oui, et même d'ailleurs, il paraît qu'avec certains aliments acides ou salés, il peut libérer encore voilà, des ions.
Oui, alors ça, j'ai pas vu ça, mais
Eh
bon,
oui, bah je vous
peut-être,
le dis. Alors attendez, moi
voilà,
je dis un
ça
truc à Jean-Paul
contribue.
Curté, quelque chose qu'il ne connaît pas.
Et voilà.
Alléluia. Merci beaucoup, mon cher Jean-Paul. C'était très précieux, encore une fois, toutes ces informations. Et si vous venez d'arriver, l'émission, elle est tout de suite, là maintenant, en podcast, sur nutriradio.fr, dans la partie médias et sur toutes les plateformes de streaming. Vous cherchez Nutrithérapie Enco. Et normalement, si vous mettez Nutrithérapie, la suggestion devrait être une Enco, si c'est bien fait. Et donc, pour que cela puisse être comme ça, pensez bien à vous abonner. Merci beaucoup. Au revoir, mon
Voilà.
cher Jean-Paul. À la semaine
Oui,
prochaine.
et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Nutrithérapie Enco. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.